Hugues Vigneault, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, psychologue au C3S Pierre Boucher. On parle avec vous du trouble de personnalité limite. Et c'est un grand cadeau que nous fait Jacques aujourd'hui de nous en parler ouvertement. On parle davantage de santé mentale et c'est une bonne chose. Et de continuer à le faire, moi, je trouve ça très précieux. Mais merci, Jacques. Le trouble de personnalité limite, ça se manifeste de quelle façon, Hugues?
Bien, je pense que ça a été bien décrit tantôt par Jacques. Il a parlé de dépression. Moi, dans mon esprit, j'ai plutôt entendu un effondrement. Donc, il y a quelque chose qui s'est effondré à l'intérieur de lui. Probablement toutes les capacités d'adaptation, toutes les ressources qu'il a eu à mettre en place tout au long de sa vie, il y a quelque chose qui s'effondre. Donc, chez les gens qui souffrent d'un trouble de la personnalité, on pourrait comparer ça à comme une structure qui s'affaisse. Ça ressemble à une dépression. C'est pas réellement une dépression. C'est vraiment une perte des capacités, perte des ressources. Les ressources sont encore là, mais on n'y a plus accès.
Ouais.
Ce qui fait que les gens vont se retrouver souvent en dépression, mais ça va être plus difficile de remonter la pente parce que il faut comme rebâtir un peu la structure interne.
Ouais. Jacques a parlé d'un mauvais diagnostic ou d'un traitement qui s'est mal fait. Est-ce que c'est parce que le TPL, le trouble de personnalité limite, est difficile à identifier?
Oui, c'est difficile à identifier parce qu'on a tous une personnalité, on a tous une structure de personnalité et on a des traits de caractère et pour des gens, on va dire « Ah, il y a une personnalité difficile, il y a des gens qui ont un tempérament qui n'est pas toujours drôle, mais ils n'ont pas nécessairement un problème.
Ouais. »
Mais cette personnalité-là peut devenir problématique, donc ça peut se rendre jusqu'à être un problème. On le voit souvent quand les gens sont soumis à des stresseurs importants ou quand ils… ils vont vivre des relations plus conflictuelles, c'est là où on va voir qu'il y a un effondrement. Donc, on peut avoir quelqu'un qui fonctionne généralement bien, mais un événement important dans la vie, une rupture, une perte d'emploi, la maladie...
Et arrive faire... l'effondrement.
Et
donc
arrive cet effondrement-là. Et là, on va voir... on va pouvoir diagnostiquer qu'il y a un trouble de la personnalité. Mais il faut aussi dire que le trouble de la personnalité, c'est quelque chose qui est au long cours. Là. C'est une structure, c'est une façon d'être...
Un des symptômes qui, je pense, et vous me corrigerez si je me trompe, Hugues, qui est assez récurrent, c'est l'accès de colère. Mais en même temps, la colère, c'est une émotion que tout le monde a. Donc, ça ajoute peut-être à cette difficulté de dire, il y a un problème, là.
Bien, oui, on a tous la colère, on a tous l'agressivité. Puis en fait, on pourrait... Là, on parle de la colère parce que c'est une émotion qui est difficile puis qu'on n'aime pas beaucoup.
Oui.
Mais c'est l'intensité. Donc, chez les gens qui ont un trouble de la personnalité, on va retrouver quelque chose de très intense, beaucoup d'impulsivité. C'est ça qui va faire la différence, parce qu'ils vont être très heureux comme ils peuvent être très en colère.
Ouais.
Donc, les manifestations de joie vont être aussi extrêmes que les manifestations de colère. Ça fait plus référence à l'impulsivité puis à la gestion de l'expression de nos émotions.
Jacques, vous avez parlé tout à l'heure que c'était important pour vous d'en parler parce que ça avait bouleversé, en quelque sorte, l'équilibre familial, le tissu familial. De quelle façon ça a touché vos proches?
Bien, lorsqu'on débute puis qu'on est dans une situation où on est extrêmement vulnérable au départ puis on fait face à quelque chose que l'on ne connaît pas, moi, dans mon cas, c'était l'incapacité de faire face au stress, qui soit très, très minime, comme... le bruit d'enfants qui jouent et qui s'amusent, mais quand ils s'amusent, ils sont bruyants.
Deux garçons
Deux
en
garçons.
Plus, hein?
c'était déjà trop à supporter. Une crise pour ne pas prendre son bain, c'était déjà trop à supporter pour moi. Le rôle de parent, d'assumer une responsabilité, c'était quelque chose qui était impensable. Assumer quelques responsabilités que ce soit, pour moi, c'était quelque chose dans les débuts. Auquel j'étais incapable de faire face. Mon premier réflexe à ce moment-là, c'était donc de m'isoler, d'être en retrait. Mais qu'est-ce que ça fait lorsqu'on a des enfants? Bien, ça fait que le conjoint ou la conjointe devient en quelque sorte monoparental temporairement parce que, comme dans mon cas, bien, on est inapte, on se sent inapte en fait. On ne l'est pas nécessairement, mais on se sent inapte à prendre cette responsabilité-là. Et il faut expliquer à nos enfants pourquoi papa, par exemple, passe 4 heures par jour enfermé dans sa chambre. Pourquoi il refuse de répondre au téléphone? Il faut l'expliquer à ses enfants. Puis il faut faire attention, bien sûr, que ces explications-là ne donnent pas l'impression aux enfants qui ont une responsabilité à avoir là-dedans. Parce que c'est très évident dans le cas de mes garçons. Moi, chez nous, on a un garçon, Vincent, qui est hyper protecteur et hyper préoccupé par le bien-être de sa famille, mais encore plus du bien-être de son père et de sa sécurité. Tandis que pour Antoine, de son tempérament, il est beaucoup, beaucoup moins préoccupé par ça.
Ils ont leur personnalité, eux aussi.
Oui, puis donc, pour Vincent, entre autres, c'était de le protéger puis de faire en sorte qu'il comprenne que, oui, il y avait un problème parce qu'il ne faut pas faire croire qu'il n'y en a pas, mais que c'est pas lui qui est en cause là-dedans.
Oui. Mm-hmm. Hugues, comment, et c'est aussi beaucoup l'objectif de cette discussion-là, comment mm-hmm. on accompagne le parent qui a un TPL, s'est diagnostiqué, à mieux naviguer dans mm-hmm. cet équilibre dans la famille, finalement?
Bien, il y a quelque chose qui est intéressant qui est mentionné par Jacques, c'est l'idée du contenant. Donc, plus capable, quand je suis plus capable de me contenir moi-même, bien, ça devient très difficile de contenir mon entourage, les enfants. Puis dans ce temps-là, c'est important d'avoir une structure, une routine, donc de rétablir une espèce de cadre qui va être sécurisant pour tout le monde. Fait que mm-hmm. le pire, c'est la désorganisation. Puis souvent, bien, quand on a un des parents qui va moins bien, bien, toute la structure familiale se désorganise. Ouais. Et c'est important d'essayer de réorganiser, de restructurer. Je pense que la transparence est importante aussi. Souvent, les gens ont peur de dire qu'ils ne se sentent pas bien. Les parents vont se cacher, vont cacher leur peine, leur souffrance. Je pense que c'est important d'être capable de dire aux enfants, bien, papa, maman, va pas bien, mais c'est correct, on en prend soin, on va mm-hmm. résoudre le problème. Mm-hmm. Donc, de rassurer les enfants, pas en faisant comme s'il n'y avait pas de problème. Donc, oui, il y a un problème, mais on va l'adresser, puis on va en venir à bout, là.
Est-ce qu'il y a un traitement pour le trouble de personnalité
limite? Tout à fait. C'est, il y a 20 ans, on aurait dit qu'il n'y avait rien à faire. C'était des gens qui n'étaient pas très, très bienvenus dans le réseau de la santé. Maintenant, c'est très commun, puis on sait que la thérapie peut vraiment aider. On va même parler de disparition du trouble.
Ah oui.
On garde notre structure de personnalité. On en a parlé un peu avant l'entrevue. On reste qui on est, fondamentalement. Et c'est sûr que si on met en place dans notre vie des moyens de se protéger, éviter le stress, éviter les conflits, essayer d'avoir, comme je disais, une routine, un cadre, une structure. En fait, les gens qui s'en sortent le mieux, c'est en couple, avec un emploi, quelque chose de stable, ça vient structurer, ça vaut mieux que n'importe quel traitement. Mais la thérapie peut aider à remettre ça en place. Et oui, on voit des gens qui n'ont plus les accès de colère, l'impulsivité, mm-hmm. la désorganisation, les chutes dépressives, les idées suicidaires, tout ça peut facilement, effectivement, s'en aller. Là.
Jacques, 10 ans après cette période un petit peu plus trouble, où est arrivé le diagnostic de trouble de personnalité limite? Comment ça se passe, cette gestion, chez vous?
Bien, écoutez, on en parlait justement tout à l'heure, M. Vigneault et moi. Dans mon cas, à moi, c'est quelque chose qui est encore là dans le quotidien. C'est quelque chose qui se gère, mais qui est encore là. Il y a une espèce de fragilité que je ressens encore. J'ai apprivoisé cette difficulté-là. J'ai été capable d'identifier les déclencheurs et on gère les déclencheurs. Mm-hmm. Mais je ne peux pas dire que je suis rendu au point où il y a une disparition complète, non. Et j'aimerais ça qu'on le soulève parce que c'est important pour moi. Une des difficultés, c'est que c'est rare qu'on parle de santé mentale chez les personnes en situation de handicap.
Oui. Mm-hmm.
Et on parle aujourd'hui, entre autres, d'accessibilité. Ça a été une série d'obstacles parce que il y a très peu d'endroits, très peu de services en santé mentale qui offrent un accès sur le plan physique, mm-hmm. À de l'accessibilité. Le réseau communautaire travaille très, très fort en santé mentale, mais souvent, les installations n'ont pas ce qu'il faut. Puis moi, j'ai eu l'impression d'être un peu le pionnier là-dedans.
Oui. Mais on va bien sûr y revenir. Je suis contente que on arrive à le souligner aussi aujourd'hui. Hugues Vigneault, c'est tout le temps que l'on a aujourd'hui. Merci beaucoup de votre passage et de cette lumière sur le trouble de personnalité limite. Je rappelle, vous êtes psychologue au C3S Pierre Boucher.